Donc, bonjour à toutes et à tous,
mes chers frères et sœurs. Merci en tout cas d'être tous là présents en matinée. On a eu une heure de plus pour dormir, donc je me suis dit à 11h on devrait avoir du monde. Mais en tout cas, merci à tous pour aujourd'hui. Vous savez, c'est quoi le thème de la formation? La formation de partage aujourd'hui.
Comment témoigner auprès de sa famille?
Ouais, cool. Ouais, c'est exactement, ouais. C'est ça le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Donc je vais vous dire un peu comment ça va se passer aujourd'hui. Donc on a vraiment à cœur avec le comité évangélisation, et donc Clément et Alain. Bon, Alain, il a d'autres priorités en ce moment, on le comprend. Mais on a vraiment à cœur de pouvoir faire des séries de formations pour les frères et sœurs. La dernière fois, le mois dernier, on a pu voir un petit peu l'importance de l'évangélisation, témoigner auprès des nations, témoigner en fait auprès de tout le monde. Et aujourd'hui, on a vraiment aussi à cœur, et je pense que c'est un sujet très important, savoir comment est-ce qu'on peut témoigner auprès de notre famille. On a mis aujourd'hui ces familles proches. Donc pour commencer, on va avoir un petit moment un peu de brainstorming. On va après intégrer un peu le pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est compliqué des fois pour témoigner auprès de notre famille. Il y aura ensuite un moment de partage libre par rapport aux situations de chacun. Mais vraiment, le but, c'est vraiment pas qu'on soit en mode didactique et de vous dire c'est ça. Mais le but aussi, c'est que chacun puisse dire ce qu'il dit ou dire ce qu'il pense par rapport à ça, et qu'on puisse travailler ensemble et trouver des solutions aussi ensemble à travers la parole aussi. Et ensuite, Clément passera un peu à une partie où il donnera un peu des outils, un peu le comment. Moi, c'est un peu le pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important de le faire et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas des fois. Après, lui, il interviendra avec le comment, et après, on aura un moment aussi de prière, où je pense que ça, c'est très important, on le verra aussi tout au long de la formation. Pourquoi la prière est importante, comment est-ce qu'on peut prier aussi pour tous ces sujets. Avant de commencer, comme on vous l'a dit, la prière est super importante, donc je vais prier pour un petit moment du Seigneur. Père éternel, merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci parce que ton amour est fidèle et est éternel, Seigneur. Merci également parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu as voulu que chacune des personnes ici présentes puisse entendre, puisse voir, puisse également expérimenter, Seigneur, la puissance de ta parole. Et puisse également comprendre, Seigneur, l'amour que tu as pour chacun des membres de notre famille. Merci, Seigneur, parce que tu mets dans chacun notre cœur une volonté, Seigneur, de parler, une volonté de témoigner, une volonté de partager ta parole, Seigneur. Et Seigneur, on veut qu'en ce matin, Seigneur, tu puisses, par ton esprit, Seigneur, nous remplir, viens par ton esprit, Seigneur, nous montrer également dans notre vie, dans notre témoignage, Seigneur, comment est-ce qu'on peut être des lumières, comment est-ce qu'on peut encore plus donner du goût, Seigneur, à ta venue sur cette terre, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons être tes ambassadeurs, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur, puissamment. Utilise ta parole également pour nous éclairer, parce que nous croyons, Seigneur, que ta parole est toute puissante, Seigneur, que ta parole subsiste à jamais et que ta parole est là pour nous enseigner. Merci encore pour ce moment. Bénis chacun de mes frères et sœurs à cette prison. Bénis également ceux qui vont arriver et que nous puissions vraiment être une famille, que nous puissions vraiment œuvrer ensemble, Seigneur. Propager la parole de ton royaume auprès de nos familles. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te prie. Amen.
Amen.
Alors, comme je vous ai dit, ce matin, on va essayer d'être un peu interactif. Donc, je vais avoir besoin de vous. Donc, si je vous dis, donc on a bien compris aujourd'hui, le thème, c'est évangéliser auprès de sa famille proche. Si je vous dis, à votre avis, c'est quoi? J'ai déjà eu Jessica.
C'est les
oignons. Je sais. Si je vous dis, à votre avis, c'est quoi l'une des plus grandes barrières? Qu'est-ce qui nous empêche, bien souvent, de témoigner ou d'évangéliser auprès de notre famille proche? Qu'est-ce que vous me diriez spontanément? Qu'est-ce qui nous empêche?
La peur des critiques.
Comment?
La peur des critiques.
Ok, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que critique négative dans le sens... si par exemple, moi j'en parle pas pour mon frère.
Ouais.
Avant toi tu es dans la secte.
Ok.
Direct. Donc, du coup, quand j'entends ça, ça me freine d'avancer les discussions.
Ok.
Et après, c'est plus difficile. Même si, disons, dans la famille, tu t'emmerdes avec ton frère, ta soeur, tout ce que tu veux, mais c'est ça qui me freine.
Ok. Peur de la critique, peur du rejet aussi, un petit peu, qui serait lié à...
Rejet en France critique, oui, mais pas dans France, oui, qui dégage.
Ouais.
C'est ça, quoi. Et après, bien sûr, en famille, je dis, ah oui, papa, tu vois, ton frère ou ta fille ou ton fils, il est dans un lit sec. Et en général, en famille, tu as un père ou une mère qui a plus d'affinité avec tel fils ou telle fille, ou c'est un tu vois.
Ouais.
Et moi avec l'autre, etc.
Okay.
C'est qui dans mon cas.
Donc ouais. Donc point de tongue, premier point, peur de la critique, peur du jugement, peur du rejet, pas comme tu as dit, mais idéologique peut-être,
idéologique,
par rapport à ce que tu dis. Ok, super. D'autres raisons. Vraiment, réfléchissez vraiment à vous, votre vie. Hein. C'est pas, je veux pas que vous sortiez qu'on sorte des réponses, mais vous, par exemple, quand vous êtes confronté à votre famille, dans des situations, je pense que... Levez la main ceux qui ont des personnes non chrétiennes dans leur famille. Bon voilà, au moins c'est fait. On est tous d'accord, donc c'est vraiment quelque chose de super important. Et la famille, c'est vraiment des personnes avec qui on passe beaucoup de temps. Donc dans ce genre de situation, qu'est-ce qui vous empêche de parler de Dieu ou de partager votre foi à ces personnes-là qui sont non chrétiennes?
Moi, je trouve que comme on a des familles qui ne sont pas chrétiens, premièrement, c'est qu'ils ne veulent pas. Enfin, ils pensent qu'on les oblige à croire en Dieu et de délaisser la religion de base qu'ils avaient. Mmh. Premier frein. Et deuxième frein, c'est qu'on a tendance à avoir pas la même vision, pas la même manière de s'exprimer. Et ça peut vexer ceux qui ne croient pas et qu'ils ont du mal à avancer, à vouloir partager.
Quand tu dis même vision et même manière de s'exprimer, tu dis d'un point de vue valeur ou d'un point de vue...
Tout, de partage, d'essayer de comprendre l'autre personne ou rien que le fait de parler un acte ou un témoignage de Dieu ou envers qui s'est passé dans la famille. Mm-hmm. L'autre qui n'est pas chrétien, il va penser c'est normal, il a fait telle chose pour ça, mais il ne va pas dire que c'est grâce à Dieu. Ou même quand il subit quelque chose, il va dire c'est comme ça la vie. Mais je ne vais pas toujours dire.
Il y a Dieu derrière.
Chercher à quelqu'un pour dire que. Comment dire, exprimer. Dire ce qu'il, s'il a besoin d'un aide. Et, par exemple, hier avec mon mari, sans parler exprès d'un sujet, on est rentré dans une discussion de travail où je lui disais que ces derniers temps j'étais assez très stressée pour telle raison. Mm-hmm. Et je lui demandais, il me dit c'est comme ça la vie, t'as choisi ce travail donc c'est comme ça et tu subis avec quoi. Et je lui dis tu pourrais peut-être m'aider un peu à la maison, quoi, des certaines tâches. Donc, il n'a pas répondu à ça. Et ma mère, elle a rajouté comme quoi que, puisque je lui partage mon stress, mes opinions et tout, ce serait bien qu'il essaie de m'aider un peu, aider la famille, quoi. Au lieu de détourner un peu le sujet, il dit que c'est comme ça la vie, quoi. C'est tout.
Mmh. Ouais, donc
après, le sujet, ça ne peut pas trop continuer. Et du coup... ça crée un frein, ça crée encore une barrière entre nous et en parlant de... Et Chloé en a rajouté ici que si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne nous suis pas, plus tard, après la mort, etc. Quoi. Et ça ne lui a pas plu. Et il a
la vérité des enfants.
C'est Chloé qui a dit ça.
Ouais, et il dit après, on ne suivra plus dans le monde.
Ouais.
Voilà. Et il a dit, pardon, de Jésus, du chrétien et tout ça, c'est stop tout de suite, quoi. Et ne me forcez pas, etc.
Ouais. Mmh. Ok. Ouais, donc différence aussi de vision de vie, de valeur, etc., qui peut tout de suite braquer les discussions et empêcher après de pouvoir partager plus de temps. Ok, super.
Surtout quand des parents sont déjà ancrés dans cette position de vie. Depuis la jeunesse.
Ouais.
Donc, je parle notamment de mes mères, ils sont bouddhistes depuis une très jeune enfance, à l'âge de 7-8 ans. Donc, là, mes parents, ils ont 70 ans passés. Tous les mois, ils vont au temple. Tous les mois, donc, ils ont des rituels, etc., bouddhistes. je ne me permettrai pas non plus de critiquer leur religion, même si ce sont mes parents, mais enfin, j'essaie de respecter un petit peu donc chacun leur profession. Le problème, c'est que dans le respect des parents, dans le sens que, comme moi en tant que fils, je dois non seulement respecter tes parents, mais également respecter donc, entre parents. Mais surtout, je dis, si le père choisit telle religion, enfin, choisit telle religion, est de telle religion, le fils n'a pas à le persuader. Mm. Mais moi, je ne me sens pas persuadé. C'est pas moi qui va te faire changer.
Après, c'est la question aussi des parents un peu, je dirais, de l'ancienne
enfin,
génération.
Français,
et que l'enfant ne peut pas forcément modeler ou influencer la croyance des parents et que c'est l'enfant qui doit obéir ou subordonner. Hein. Ouais, le respect un peu de des traditions et de la culture chinoise. Enfin, les Asies plutôt. Ouais. Ouais. Ok. D'autres.
Nos familles utilisent souvent nos failles. En fait, je pense quand on habite vraiment la famille, c'est les parents ou des fois les frères et sœurs, tout ça, c'est que si tu es le seul ou la seule chrétienne, dès que tu vas t'énerver ou que tu veux te faire un truc de travers, bah, ils vont l'utiliser comme.
Prétexte.
Comme, bah, pour t'attaquer, quoi. Ou alors, c'est difficile aussi de se confier au niveau des. Enfin. De se confier quand on a besoin, par exemple, de soutien, parce que bah, la personne, elle peut aussi utiliser contre toi. C'est-à-dire. Bon, je pense. Enfin, en tout cas, ouais, c'est vrai que. Voilà, c'est là où on est vraiment. C'est vrai que la famille, des fois, il peut y avoir des conflits, tout ça, donc. Mais c'est aussi là où Dieu peut travailler en nous, parce qu'on se rend compte que si on n'est pas changé au fond de notre cœur, bah, ça va se voir et. Voilà. C'est aussi un bon défi, quoi.
C'est clair. Non, mais c'est bon. Très très bon point. Ouais. Le point de un peu la cohérence entre ce qu'on dit, ce qu'on prêche et ce qu'on fait. Et non, c'est clair. Bon, on en reviendra dans le sujet après. D'autres idées? Moi, j'ai listé un peu quelques idées qui m'étaient venues par la tête et qui rejoignent un peu complètement ce que vous avez dit. Donc, tu avais dit peur. Moi, j'avais une peur du jugement, du rejet, de la persécution. C'est vrai que c'est des gens avec qui on est souvent et c'est des gens avec qui on est investi émotionnellement et pour la vie. La famille, on la choisit pas. Dieu l'a souverainement placée là où on est. Et on est amené à la suivre et à vivre avec. Mais sachez que s'il y a du rejet et s'il y a des difficultés, c'est normal. Dans Matthieu chapitre 13, verset 57, pour ceux qui ont leur Bible, Matthieu chapitre 13, verset 57, je vais le lire par manque de temps, et si vous voulez noter. Ils disent, donc Jésus revient à Nazareth et il enseigne, il fait des miracles. Et les gens disent, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon, Jude, ses frères et ses sœurs? Et en fait, il est rejeté. Quand il revient à Nazareth, il est rejeté. Tout ce qu'il fait, les gens ne le croient pas. Donc Matthieu chapitre 13, verset 57, il dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et sa maison. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Donc même Jésus-Christ, qui était revenu à Nazareth, prêchait pour... T'inquiète. Pour prêcher, pour partager la parole et pour encourager les gens, il était méprisé là où il était. Dans sa patrie, dans sa maison, un prophète et un chrétien, un disciple, sera amené à être méprisé dans sa patrie ou sa maison. Donc c'est une vérité. C'est juste un constat qu'il faut qu'on se rappelle. Luc chapitre 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc chapitre 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ici, le verbe haïr, ce n'est pas. Enfin. Qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas Dieu ne nous appelle pas haïr, mais en fait Dieu nous dit que le mot haïr ici c'est aimer moins que. Si, hein, si vous n'êtes pas prêt à aimer moins que Jésus, votre père ou votre famille, hein, vous ne pourrez pas être disciple de Dieu. Donc encore une fois, ici, on nous rappelle qu'il y aura des situations difficiles, qu'on sera amené à être dans des situations de persécution, que ça va arriver en tant que chrétien. Parce que si on veut suivre Jésus-Christ, et si on veut être disciple de Jésus-Christ, c'est quelque chose que Dieu va permettre dans nos vies. Mais on va voir après pourquoi ces choses aussi sont permises, comment on va pouvoir être confronté. Mais ici, c'est vraiment une question de constat pour l'instant. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est on se dit « Ah, j'ai le temps. C'est ma famille, je les vois souvent, j'ai le temps. J'ai le temps, je vais les voir ce soir, je vais les voir demain, je vais les voir la semaine prochaine. J'ai le temps, donc j'en parlerai peut-être plus tard. Ou je vivrai ma vie chrétienne de manière différente plus tard. » Il y a un problème, Jennifer ?
J'ai pas
réussi à
trouver la page.
Ah, pour le...
C'est bon, on l'a trouvé.
C'est Matthieu 13, 27 et ah l'autre oui, c'était Luc 14.
C'est Luc 14.
Ouais, 26. Ouais. Comment ? Matthieu 13, 57 pour le premier.
Vous savez s'il y a des brouillons ici qui me passent ? Des brouillons, des feuilles de brouillons.
Si vous voulez, si vous voulez on vous enverra nos notes. Hein.
Ouais. Non, mais comme ça, si jamais il y en a qui veulent.
Ouais, ou si vous voulez prendre.
Ouais. Ouais. Tu sais, c'est des brouillons.
On verra. Moi, je vais jouer à la route.
J'en ai un. Des brouillons de l'huile.
Ouais, comme ça, ça fait. Ouais, mais pas ce brouillon, si. Brouillon, c'est bien. Feuille blanche. Vas-y.
Oui, donc deuxième point, souvent on se dit qu'on a le temps. Parce qu'on les voit souvent. Et du coup, je dis, bah, je veux pas parler, ouais, bon, je veux pas parler maintenant. Ou je ferai quelque chose plus tard, je me mets à plus tard. Mais il faut se rendre compte qu'il y a vraiment une urgence. Dieu nous a placés ici sur cette terre, Dieu nous a donné le message de l'évangile qui sauve, et ce message-là, il y a une urgence aussi à partager. Matthieu 24, 44, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » On peut penser qu'on a le temps, on peut penser qu'on a encore beaucoup d'occasions, mais Jésus-Christ peut revenir à n'importe quel moment, et quelle sera la conséquence en fait quand Jésus-Christ reviendra ? Que les personnes qu'on aime ou qu'on chérit, on s'était dit, ah bah, je te vois aujourd'hui, bah, je te parlerai peut-être demain ou après. Là, c'est la fête. Je n'ai pas envie de casser l'ambiance. Ouais, ça m'est arrivé avec plein de gens de dire. Encore une fois, c'est des constats. Je ne dis pas qu'à chaque fois qu'il faut voir les gens, il va falloir bombarder. Mais Jésus, qu'il faut qu'on garde déjà en tête ces constats. Là, cette première partie, c'est il y a des barrières qui nous empêchent de partager l'évangile. Mettons ces barrières de côté. Une barrière qui me dit, j'ai le temps. Mettons cette barrière de côté, parce qu'en fait, on n'a pas forcément le temps. Troisième point, exactement le point que tu avais dit, Jessica. Ils me connaissent par cœur. Les gens de ma famille me connaissent par cœur. Je parle, crois en Dieu, aime ton prochain, sois parfait, soumets-toi. Mais quelle est ma vie ? quelle est ma vie ? Tu vois, la personne regarde, elle va regarder, attends, tu me parles de la poussière dans mon œil. Mais regarde la poutre dans ton œil. Vous voyez ? Et ça c'est quelque chose de très important. Quelle est en fait notre capacité à vivre l'évangile ? Comment est-ce qu'on vit l'évangile en tant que chrétien ? Quel est notre témoignage de vie ? Et quel est également le poids de notre vie quand on parle ? Est-ce que nos paroles sont en adéquation avec nos actes ? Est-ce que les Américains disent souvent, est-ce qu'on walk the talk ? Est-ce qu'on marche selon ce que nos paroles disent ? Un passage dans 1 Jean 1. Attendez, je vais juste checker. Non, c'est celui-là. Un passage dans 1 Jean 1. À partir du verset 5, mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière et il n'y a rien en lui qui puisse le faire trébucher. Donc là, l'apôtre Jean est très clair. Celui qui aime, celui qui déteste son frère, celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Et après, quand on le généralise aussi, dans tous les bienvenus,
C'est quoi ton prénom?
Régine.
Régine, ok. Merci. Je sais pas si t'es au courant, on fait une formation sur l'évangélisation de sa famille. Ouais. Et là, en fait, on est dans la première partie où on a listé un peu toutes les barrières qui nous empêchent de partager l'évangile à notre famille proche. Qu'est-ce qui nous empêche au quotidien de partager l'évangile? On a tous des personnes dans notre famille qui sont chrétiennes. Oui. Et on se dit que cette famille, c'est des personnes avec qui on est tout le temps, on passe beaucoup de temps ensemble. Mais qu'est-ce qui nous empêche des fois de partager l'évangile ou de partager notre foi avec ces personnes-là? Donc on a vu le premier point, c'était peur du rejet, peur du jugement de la part de notre famille, persécution aussi, psychologique. Deuxième point, on s'est dit souvent, on se dit qu'on a le temps. Je les vois souvent, j'ai le temps, donc je partage pas tout ça l'évangile. Là, on est au troisième point, c'est la cohérence en fait entre nos paroles et notre témoignage de vie. Parce que nos proches me connaissent par cœur, du coup je prêche la parole, je prêche l'évangile, enfin, je dis qu'il faut croire en Dieu, mais ils me voient au quotidien et quand je me mets en colère ou quand je fais quelque chose de mal ou quand je ne suis pas en accord avec la parole, les gens le voient et les gens vont le prendre et l'utiliser contre nous. Donc c'est un rappel qui, pour nous en tant que chrétiens, notre témoignage de vie est extrêmement important et comme il est rappelé dans ce passage, celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore des ténèbres. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. L'important c'est de garder la parole de Dieu parce que l'amour se réalise dans ce moment-là. Également peut-être la compassion pour les âmes. Est-ce que j'aime profondément quelqu'un? Parce que des fois, des gens de notre famille, il y a des conflits et peut-être qu'il y a de la rancune, il y a un manque de pardon, etc. Et en fait, ça se trouve, je l'aime plus. Et du coup, je lui dis pas, toi, je t'aime pas. Je parle crûment, mais toi, je t'aime plus. Enfin, il s'est passé trop de choses. Et. et je mets de côté, et c'est pas grave. Je te laisse pas forcément. Mais il est important aussi d'avoir la volonté d'évangéliser. Pour nous, le cœur même de ça, c'est vraiment l'amour. C'est l'amour du plus profond de notre cœur qui nous pousse à évangéliser. C'est pas une obligation qu'on a parce qu'on est chrétien, ou c'est pas parce que c'est écrit dans Matthieu 28, 18, 1, que je récite que j'évangélise. C'est parce que je suis envahi et je suis poussé par l'amour de Dieu pour la personne. Et gardons aussi ça. Et même s'il y a des personnes que je n'aime pas dans ma famille, demandons à Dieu aussi de changer notre cœur, d'avoir de la compassion pour les âmes.
Mais il y a un verset, si je ne me trompe pas, corrigez-moi, il dit « Répands ma parole autour de toi et laisse-moi faire le travail. » C'est comme ça.
Mm-hmm. Ben ça, on va le voir, je pense, avec Clément. Mais c'est un point.
Moi, je me suis dit, excuse-moi, on verra après, mais j'ai dit, moi, j'ai donné ma parole, j'ai transmis la parole, l'évangile à mes proches, maintenant je laisse au Seigneur de faire son travail. Mm-hmm. Est-ce que je me dis que j'ai fait assez mon travail de mon côté de moi?
Ah, yeah. C'est une des questions auxquelles on répondra.
Ouais. Il y a la proclamation de la parole qui est très importante, et il y a d'autres choses aussi que tu vas faire et que tu seras amené à faire parce que tu vas les voir souvent en fait, et qui va apporter d'autant plus de puissance aussi à ton témoignage de vie, et qui est important, mais qu'on verra après avec lui. Donc voilà le point, donc, compassion pour les âmes, donc en amour, demander à Dieu aussi d'augmenter notre amour pour les gens. Peut-être que des fois on met certaines personnes de côté, on les aime pas assez. Demandons à Dieu aussi que Dieu puisse nous donner cet amour. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, que tous, et même que les gens de votre famille reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13, pardon, verset 35. Dernier point, j'ai vraiment essayé d'être le plus large. Nous sommes dans une famille chrétienne, mais on fait plus les choses par habitude, c'est devenu plus une habitude dans ma famille chrétienne. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai des doutes, peut-être sur la foi de... Et là, en fait, c'est un point aussi que je vais venir après, parce que je vais partager un peu mon témoignage. Et j'ai des doutes, en fait, sur la foi ou pas de certaines personnes de ma famille. Mais le fait que ce soit juste une tradition ou une culture ou une habitude, ça m'empêche en fait de vivre l'évangile. Parce que je me dis, oui, on croit tous, mais au final, est-ce qu'on croit vraiment? Un passage dans 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte,
avec douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. C'est ça, Martin. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se tourneront et se donneront vers une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille et la vérité et se tourneront vers les fables. Donc il y aura un moment où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine et se tourneront vers d'autres choses. Et des fois, dans nos milieux chrétiens, faut qu'on soit vigilant aussi. Comment est-ce qu'on vit aussi la sainte doctrine? Comment est-ce qu'on vit notre relation avec Dieu, avec notre famille? Et c'est pas parce que des gens se disent chrétiens des fois qu'ils le sont tous forcément, et notamment dans nos relations avec eux. Et ici, Timothée nous rappelle qu'il y aura un moment, il viendra un temps aussi, où les gens se détourneront de ce qui est vrai et de ce qu'on est appelé à vivre en tant que chrétien. Donc voilà un peu les cinq barrières qu'on a pu identifier. Donc je les rappelle, hein, peur du jugement, on se dit souvent qu'on a le temps. Cohérence entre ma vie et ce que dit la Bible. Manque de compassion des fois pour les âmes et pour ma famille. Et aussi, habitudes chrétiennes. Habitudes chrétiennes qui des fois peuvent m'éloigner de Dieu. Donc on a vu que ces cinq barrières existaient, mais avec les versets qu'on a pu lire aussi, on a vu que ces cinq barrières, en fait, on devait les écarter parce que toutes les excuses qu'on peut se donner n'ont pas vocation à nous convaincre de ne pas partager l'évangile. C'est des choses qu'on se dit peut-être et que Satan met des doutes dans notre tête, qu'on n'a pas envie ou qu'on n'a pas forcément l'occasion de partager l'évangile, mais ici, tous ces versets-là sont là pour nous dire et pour nous convaincre aussi qu'on doit continuer à partager l'évangile auprès de notre famille. Donc là, on a vu le pourquoi est-ce qu'il y a des barrières, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, et pourquoi est-ce que justement ces barrières-là, on doit les écarter par la parole de Dieu aussi, par l'amour que Dieu met dans notre cœur. Maintenant, on va passer à un moment où je pense on voulait aussi vous donner un autre moment où vous vouliez vous donner la parole, pardon, et qu'on puisse peut-être chacun ou ceux qui veulent en tout cas, qu'ils puissent partager un peu en ce moment ou même avant des témoignages où ils ont vécu des volontés de partager l'évangile avec leur famille. Donc en fait, c'est un moment où c'est important aussi, je pense, que chacun puisse entendre. Là, on a vu un peu les barrières, les pourquoi, donc qui étaient assez théologiques / abstraits, enfin pas abstraits, mais des choses qu'on voit. Et là, on veut vraiment passer un moment où on va pouvoir peut-être être plus pratique et savoir comment est-ce que vous vivez ces batailles. Moi, si vous vivez ces moments difficiles, et y a pas le but, c'est pas de dire que ça va mieux ou ça va pas, etc. Le but, c'est peut-être plus de dire, est-ce qu'il y a une situation, peut-être cibler une personne dans votre famille où il y a un problème, où il y a une volonté d'évangéliser, etc. Ou quels sont vos problèmes, ou peut-être quelque chose qui s'est passé et maintenant qui est résolu, où la personne s'est convertie, gloire à Dieu, ou que la personne s'est pas convertie, mais c'est tant pis. Et c'est juste voilà, qu'on puisse avoir de la substance, pour qu'ensuite Clément interviendra aussi, et qu'on puisse savoir en fait comment est-ce qu'on peut agir sur ce genre de situation. Moi, je vais vous partager une expérience personnelle. En fait, le cinquième point que je vous ai dit, nous sommes dans une famille chrétienne, mais j'ai des doutes. En fait, je le pensais pour moi, en ce sens que je suis pas né dans une famille chrétienne, mais on est rentré dans l'église assez jeune. Enfin, j'avais 6 ans quand je suis rentré. Du coup, j'ai grandi dans un environnement chrétien. Mes parents aussi sont baptisés. Ensuite, mon frère s'est baptisé, ma soeur s'est baptisée, je me suis baptisé. Et du coup, voilà, on avait un peu ces habitudes chrétiennes qui étaient mises en place. Le problème, c'est qu'on va à l'église, on va au culte, on va au groupe, etc. Mais des fois, on perd aussi la raison. On perd aussi le sens de toutes ces choses-là. Et on les fait plus par habitude. C'est pour ça que j'utilisais le mot habitude chrétienne. Et en fait, je me suis rendu. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que peut-être potentiellement, une personne de ma famille n'était pas forcément chrétienne. Et cette personne-là, c'est mon père. Mon père, en fait, se posait pas mal de questions aussi sur son engagement avec Dieu, dans sa relation avec Dieu. Et du coup, la cohabitation avec mon père était, d'un autre côté aussi, la cohabitation avec mon père, personnellement, moi, était compliquée. J'étais passé par une phase où j'étais au chômage. Du coup, mon père, comme il était, il a passé beaucoup de valeur, entre guillemets, dans la réussite sociale. Il se disait, t'as pas réussi socialement. Mon fils, mais t'as pas réussi socialement. Et du coup, je pense que ça cristallisait aussi les tensions. Et du coup, je sais qu'avec mon père, c'était assez conflictuel. Du coup, mon père aussi est quelqu'un qui aime bien contrôler les choses. Donc du coup, dans la famille, à un moment donné, il ne restait plus que mon père, moi et ma mère. Du coup, il y avait des conflits. Et moi, au départ, ces conflits-là, je les résolvais, je pense, de manière un peu humaine. Et de manière un peu... je répondais des fois au conflit par le conflit. J'essayais de raisonner de manière cartésienne, etc., pour essayer de le convaincre, etc., mais c'était toujours des conflits. Et mon père aussi disait, voilà, vous êtes chrétien, mais voilà, vous ne faites pas les choses... vous dites chrétien, mais ce n'est pas parfait dans ta vie, tu vois, tu n'as pas de travail, des choses comme ça. Un peu ce qu'on disait, où les personnes non chrétiennes piquent et disent, voilà, vous dites vous êtes chrétien, mais c'est pas parfait. Et du coup, je sais que mon père, clairement, il remettait sa foi en question. Il disait même, je ne suis pas sûr d'avoir la foi. Je vais à l'église, mais je remets en question ma foi, etc. Et du coup, ça a été vraiment un long process pour moi aussi d'essayer d'évangéliser mon père. En fait, je me disais, il faut que je réévangélise mon père. Enfin, il faut que je lui partage la parole. Alors que c'est mon père. Vous voyez, je pense dans les cultures asiatiques, c'est très compliqué parce que le père, comme tu disais tout à l'heure, Tong, tu vois, il y a un peu cette hiérarchie. Et le père, quand il croit quelque chose, quand il vit quelque chose, t'es pas toi l'enfant, t'es pas là pour lui faire changer les idées, tu vois. Mais du coup, je pense que j'ai eu un gros travail en tout cas d'humilité et de soumission par rapport à mon père, par rapport à son autorité, par rapport à ce qu'il demandait de faire, parce que comme je dis. Il dit souvent faut faire ça, même si c'est, pour moi c'est pas ça, mais il y a eu beaucoup, un gros travail par rapport à ça, un gros travail de prière aussi. Parce que des fois je me sentais un peu. On se sent impuissant face à la situation. On se dit mince, c'est quelque chose que je peux pas forcément faire face, une situation que j'ai pas les épaules assez larges, ou j'ai pas la connaissance, ou j'ai pas la parole pour changer les choses. Et aussi, je pense que. L'amour que j'ai pu lui porter, parce que je pense que dans des familles asiatiques, des fois on n'a pas forcément la notion de l'amour, enfin, on ne l'exprime pas de manière assez claire, on ne le dit pas, et même si des fois on le dit, l'exprimer après de manière claire, c'est différent. Et moi je pense que Dieu, quand je parlais de compassion pour les âmes, Dieu m'a vraiment mis à cœur aussi l'amour pour mon père, parce que je sais que pour ma mère c'est facile, mais pour mon père c'est plus compliqué. Parce que c'est des personnalités différentes. Et que du coup, j'ai vraiment prié pour que Dieu me donne l'amour, en fait. Seigneur, donne-moi cet amour qui persévère, donne-moi cet amour qui se soumet, donne-moi cet amour qui s'humilie, et donne-moi cet amour aussi qui peut toucher les cœurs. Et c'est là que Dieu vraiment m'a convaincu que c'est par l'amour aussi que Dieu touche les cœurs. Bon, tout à l'heure, on me parlait de parler, tu te rappelles, de dire. Moi, je partage l'évangile et j'ai fait mon boulot. Et moi, je crois aussi que notre boulot, c'est un boulot continuel. Comme on l'a dit, la famille, on est là tout le temps avec eux. Il faut qu'on soit tout le temps... Notre but aussi, c'est de tout le temps qu'ils soient en contact avec la parole de Dieu. On peut être en contact avec la parole de Dieu par l'écoute, mais on peut être en contact avec la parole de Dieu aussi par l'amour qu'on porte les uns aux autres. Et moi, Dieu m'a vraiment mis à cœur parce que je pense que je n'aimais pas mon père ou que je ne le montrais pas assez. Et Dieu m'a vraiment mis à cœur et il m'a humilié à travers ça. Il m'a dit... Un peu un Corinthiens 13:13 où il dit hors trois choses existent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la chose la plus importante c'est l'amour. Et je pense que l'amour qu'on expose et qu'on donne, c'est un peu comme cette eau qui creuse petit à petit un ruisseau, enfin un ruisseau qui creuse un petit à petit les vallées et qui creuse et qui touche petit à petit les cœurs. Et voilà, et moi Dieu m'a vraiment mis à cœur cette conviction et cette action et apporter l'amour de mon père de manière visible, par les paroles, par les actes, pour essayer de toucher son cœur. Et je dis pas qu'aujourd'hui il est... Enfin, je sais qu'en tout cas beaucoup de choses ont changé en lui. Parce que je pense aussi le fait d'aimer aussi change les gens. Quand les gens reçoivent l'amour, les gens ne sont pas sensibles à l'amour et l'amour de Dieu touche les cœurs. Et voilà, c'est le combat entre guillemets que je mène. Enfin, tout n'est pas parfait, mais je sais que Dieu est à l'œuvre, je sais que Dieu change le cœur et Dieu change petit à petit aussi son cœur. Et voilà, ma prière aussi, c'est qu'il se tourne de manière définitive vers Dieu et qu'il puisse avoir cette relation. Mais c'est vraiment un combat. Et un combat tous les instants, parce que du coup on est tout le temps avec eux. Et le seul moyen aussi d'en ressortir vainqueur et d'en ressortir grandi aussi, c'est de prier et de demander aussi à Dieu de l'aide. Parce que tout seul on va se dessécher, tout seul on va se démotiver, et tout seul aussi on peut se perdre dans ce combat-là. Mais Dieu est bon, Dieu relève les faibles, Dieu relève ceux qui ont besoin aussi d'être fortifiés, et Dieu touche aussi les cœurs. Donc voilà, c'est pas un happy ending, c'est to be continued, mais voilà, Dieu utilise beaucoup aussi ces personnes-là pour nous transformer, parce que c'est des personnes qui nous sont chères et Dieu des fois a besoin de faire beaucoup de travail dans notre cœur aussi pour qu'ensuite il y ait son œuvre dans la vie. Donc je sais pas si d'autres personnes ont des partages. Ouais.
Non, bonjour à tous déjà, désolé de ton retard. Je me sens très concernée en fait par la formation d'aujourd'hui et elle tombe un petit peu à pic dans le timing de ce que je vis un petit peu en ce moment, parce que j'ai ma mère qui est hospitalisée pour un cancer des poumons et qui est pour les médecins condamnée. Moi j'ai la foi, donc je sais que la science est limitée, que l'homme est limité, que Dieu est le Dieu de l'impossible. Mais contrairement à la plupart d'entre vous, j'ai eu connaissance de Dieu par héritage, parce que dans ma famille, tout le monde avait connaissance que Dieu existait, mais je ne suis pas issue d'une famille qui est pratiquante. Dans ma volonté de connaître le Christ et de lui donner ma vie, j'ai fait ce voyage toute seule. Donc j'ai pas pu forcément, au sein de ma famille, me rattacher à des personnes qui m'auraient guidée, qui m'auraient donné des réponses sur des interrogations que j'ai. Donc je pense que je suis et j'ai été beaucoup plus sujette à douter, parce que j'avais personne à mes côtés qui me fortifiait dans ce que je pensais en fait. J'étais convaincue de faire les bons choix, que je prenais le bon chemin, mais voyant qu'autour de moi, mes proches ne le faisaient pas, et généralement, enfin, les proches sont aussi un exemple, j'ai pas mal douté et je me suis posé des questions. Et c'est vrai qu'après, dans ma nature qui est humaine, j'ai péché, j'ai fauté, mais je revenais toujours à la parole, je revenais toujours à Dieu parce que j'en avais besoin. Et quand je voyais que ça m'empêchait pas de commettre des péchés, mais je me disais, mais pourquoi en fait, si c'est vraiment ça, si t'as vraiment la foi, pourquoi tu continues de pécher? Et j'apprends au quotidien que c'est pas parce que nous péchons, parce que malgré nous notre nature est pécheresse, qu'on n'a pas foi en Dieu et qu'on l'aime pas et qu'on n'a pas envie de le servir. Ce que je vis aujourd'hui me donne encore plus envie de servir Dieu et de faire connaître à mes proches, notamment à ma mère qui est de confession catholique mais qui n'est pas pratiquante, ce que Dieu a fait dans ma vie en fait et ce qu'il peut faire dans la sienne. Et je vais à l'hôpital, je prie pour elle énormément. Et hier, j'y suis allée, notamment avec deux sœurs, une sœur de l'église ici, Rachel, et une autre avec qui je fais le groupe de maison chez David et Sylvie, qui s'appelle Grace. Et on a beaucoup prié pour elle et elle a pleuré, elle a été touchée. Donc ça a été vraiment pour moi une démonstration instantanée, je dirais, de l'amour que Dieu lui portait. Et justement, j'ai envie que ça continue, j'ai envie qu'elle voit en fait le bienfait que ça peut lui procurer. Mais c'est vrai que dans ma légitimité en tant que chrétienne, je me sens parfois pas forcément la plus à même de l'évangéliser parce que, bah parce que j'ai des doutes, parce que je sais que je ne suis pas un exemple parfait de la servante que je devrais être. Et du coup, ça m'empêche parfois de lui parler à cœur ouvert et aussi... Et puis j'ai cette peur aussi d'être rejetée finalement, parce que les gens se détournent assez rapidement de vous quand vous voulez leur parler de Dieu, sans forcément entrer dans une conversion intrusive, etc. Mais ne serait-ce que parfois dire à quelqu'un bah, que Dieu te bénisse ou gloire à Dieu pour des choses, je sais que parfois je me réfrène parce que j'ai peur que les gens me disent « Ah, ça c'est bon enfin, ». Alors que, voilà. Et ça ne devrait pas me toucher autant, mais parfois ça me pique aussi. Donc voilà, je prends sur moi, je prie beaucoup pour que Dieu change mon cœur, que Dieu me change et qu'il me donne la force et qu'il me fortifie aussi. Moi déjà, d'être plus ancrée dans sa parole et de le connaître un peu plus pour justement pouvoir contrecarrer certaines choses qui ne devraient pas me blesser. Et aussi pour que, bah, pour que je change et que je sois un exemple et que les gens aient envie de me suivre, en fait, qu'ils aient envie de croire à ce que je dis. Parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, dire des choses, j'ai dans le lit, je vais à l'église, je fais ceci, je fais cela... Mais dans le quotidien, ça ne reflète pas ta personnalité en tant que chrétien. Bah, je pense que les gens, c'est normal qu'ils y croient pas plus que ça. Quoi. Donc c'est pas un happy ending non plus. mais je suis en bonne voie. Elle a réclamé sa Bible, elle a accepté déjà la prière. Donc, voilà, Dieu va la changer. Dieu a déjà commencé à la changer, donc je garde bon espoir.
Merci. Voilà.
Ouais. Il y a encore une personne qui veut partager, une dernière personne.
Moi, c'est par rapport à la famille aussi, c'est le côté d'André, il y a toute sa famille qui ne sont pas chrétiens. Et donc, quelquefois, quand il y a des occasions qui se présentent, j'essaie d'évangéliser, de parler de Dieu. Mais souvent, j'ai une peur. Au début, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'ai peur. Et après, à un moment donné, j'ai fait une analyse. Parce qu'en fait, dans sa famille, il a un neveu qui est malade. En fait, c'est un problème incurable, c'est un problème de naissance, c'est un gène. Et puis aussi, ma mère, elle a bien un problème de santé aussi. Et elle a... elle a des troubles bipolaires. Et quelquefois, il y a ma mère qui me pose des questions. Mais ta mère, elle est chrétienne, comment ça se fait qu'elle a ce genre de problème, des choses comme ça. À un moment donné, je ne savais pas répondre. Et puis je sais que j'ai dit, la foi chrétienne, c'est il faut la vivre. Quelquefois, même si la personne est chrétienne, elle n'est pas forcément obéissante. Elle ne fait pas forcément ce que la Bible demande. Et quelquefois, on a plus envie de faire ce qu'on a envie de faire plutôt que d'obéir à la voix de Dieu. Mais à travers tous ces problèmes, j'ai remarqué que j'ai peur. À un moment donné, j'ai peur d'évangéliser. Et un jour, j'ai prié et je me dis, mais... on dirait que, en fait, ma peur, je me dis, est-ce que j'ai pas la foi? J'étais en train de remettre ma question, ma foi. Parce que s'il me demande, oui, est-ce que Dieu peut guérir la maladie de son neveu? Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire oui ou non, je sais pas. Et je dis, oui, mais si je dis que Dieu peut guérir la maladie et que finalement il n'est pas guéri, qu'est-ce que je vais dire? Non, en fait, je me dis... est-ce que je doute de mon Dieu ou pas au fond de moi? Et je me suis posé ces questions-là. Mais je me dis, mais c'est grave si je me pose cette question deux fois par rapport à moi-même. Et voilà, c'est une constatation que j'ai faite. Mais je dis, mais au fond de moi, je crois en Dieu. Mais après, je ne sais pas comment faire face à ce genre de situation. Tu vois?
C'est une super transition pour la partie d'après. Merci beaucoup, Jennifer. Partage. Je vais essayer d'être sur la partie en 10-15 minutes, sur la partie un peu comment. Je pense que si vous êtes tous venus, c'est aussi le pourquoi. Je pense que vous, chacun le vit d'une manière différente, pourquoi c'est difficile. Voilà. Là, j'ai sur la partie comment, mais ce n'est pas une recette, déjà, premièrement. Il ne faut pas se dire si vous êtes venus pour se dire bon, bah, y a les 5 points qui vont fonctionner. Et j'applique ça direct, et du coup, direct, je vais voir les fruits. C'est possible, mais c'est pas sûr, pas non plus. Parce que, Dieu agit en son temps. Et que dans la Bible, on va surtout prendre beaucoup de versets dans la Bible. Il y a des fois où c'est immédiat, il y a des fois où ça prend plus de temps. Il y a ça aussi. Pour commencer, je me suis beaucoup inspiré d'un article que je pourrais vous envoyer pour ceux qui ont WhatsApp ou par SMS, de Bastien Coueno, qui est un évangéliste qui a écrit un article sur comment partager sa foi avec sa famille non chrétienne. Donc c'est un article de blog, donc ça se lit assez simplement, et je me suis pas mal inspiré de ce qu'il dit dans certaines parties. Mais pour commencer déjà, on a deux cas quand on essaie de témoigner à notre famille proche. Soit au début on était un peu tout feu tout flamme, un peu comme moi, où on parle de Dieu dès que c'est possible. Et du coup, bah, à un moment donné, notre famille peut en avoir un peu marre et nous dit de ne plus parler de Dieu parce que bah, si j'essaie de témoigner, d'évangéliser, bah, ça risque de créer des conflits, peut-être même des séparations, des ruptures. Enfin, voilà, ça peut être. Enfin, moi, si je suis trop en mode, pas harcèlement, mais excessif, bah, ça peut bloquer la personne. Et après, on peut avoir à contrario le raisonnement inverse, c'est-à-dire bah, maintenant que voilà, je me suis pris des stops, bah, ok, je vais garder le silence et, parce que j'ai peur de subir la persécution des proches, on parlait tout à l'heure avec Tong. Mais avec les années, bah, peut-être on n'essaie plus rien avec notre famille, on se dit bon, bah, voilà, j'ai essayé, ça ne marche plus, et maintenant je vais me tourner plus vers des inconnus ou des personnes qui sont moins proches, parce que finalement, bah, même si elles me blessent, ça me fera moins mal que si c'est ma famille proche que je vois régulièrement. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir, c'est même si la foi c'est un sujet qui divise, hein, même si on n'a pas tous la même foi dans notre famille, bah, c'est voir comment est-ce qu'on peut trouver des occasions pour passer des moments ensemble et avant tout, non pas à montrer qu'on a raison, des vérités, mais vraiment à incarner la vérité, à être nous-mêmes la vérité, à chercher à vivre l'unité finalement dans l'amour avec notre famille. Donc il y a trois points aujourd'hui qu'on va aborder ensemble. Donc premier point, les trois clés pour partager sa foi à sa famille de manière biblique. La première clé, c'est prier et jeûner de manière régulière. Prier et jeûner de manière régulière. La deuxième, c'est s'intéresser à la personne. Et troisième chose, c'est ne pas parler de Jésus, mais être comme Jésus et les premiers disciples. Prier et jeûner de manière régulière. Deuxièmement, s'intéresser à la personne. Et ne pas parler de Jésus, mais être comme Jésus et les premiers disciples. Ou, on va dire, ne pas juste parler de Jésus. Parce qu'il faut aussi qu'à un moment donné, on puisse quand même partager l'évangile d'une manière ou d'une autre.
Tu peux répéter la troisième ?
Ne pas seulement parler de Jésus, mais être comme Jésus. Donc, prier et jeûner de manière régulière. Bon, on pourrait faire une étude biblique complète, qui pourrait durer une heure et demie, je pense, sur la prière. Je pense que la prière, il y a plusieurs niveaux. Bah, Pasteur Didier avait partagé à la dernière formation sur le combat spirituel. Il y a le premier niveau où c'est tu pries pour tes propres besoins. Et il y a le deuxième niveau, bah, là je simplifie à fond ce qu'il disait, mais où tu pries plus pour toi, mais tu pries pour les autres. Ce qu'on appelle l'intercession. Et par rapport à cette intercession, il y a plusieurs versets. Alors, est-ce que vous pouvez tous prendre une Bible ? Et je vais vous donner des versets à lire chacun. Donc, Christina, tu peux lire Jacques 1, verset 5, préparé. André, Jean 15, verset 7. Jennifer, Marc 11, verset 24. Denis, Jean 14, 13, 14. Jean 14, verset 13 et 14. Régine, 1 Jean, chapitre 3, verset 22. Jessica, Matthieu 18, 19. Yaki, Matthieu 21, 22. Et André, Tong, 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15.
Bon, moi, c'est Jacques, verset 5. La sagesse et la prière. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu, qu'il le lui donnera. Car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche.
Jacques 1, verset 5. Ouais. André.
Jean 1, verset 7. Il va pour servir de témoin. Pour
rendre... Jean 15, verset 7.
C'est Jean 15.
Ouais. Peut-être Jennifer en attendant, vas-y.
Marc 11, 24, c'est ça?
Ouais. Marc 11, 24, ouais.
C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé.
entendre Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
C'est Jean 14, 13 à 14. Quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
Alors moi c'est 1 Jean chapitre 3 verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable.
Matthieu 18 verset 19. J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera.
Matthieu 21, 22. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez.
1 Jean 14, c'est ça ?
1 Jean chapitre 5, ouais, verset 14.
1 Jean 5, 14. Alors, 1 Jean 14. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, c'est ça ?
Non, 1 Jean chapitre 5.
14, pardon,
excusez-moi.
Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis.
Ok. Donc il y a tous ces versets qui nous encouragent à continuer à prier, à demeurer dans la prière. Ça peut être une astuce, ça peut être, par exemple, avoir un carnet de prière ou prier tous les jours pour une personne en particulier de votre famille. Et aussi que vous voyez quand on dit demander selon la volonté de Dieu en fait. Parce que des fois on se dit bon bah je demande selon ma volonté et en fait ma volonté n'est pas forcément celle de Dieu aussi. Et c'est pour ça que c'est important d'être nous-mêmes en relation avec Dieu vraiment pour pouvoir demander selon la volonté de Dieu et non pas selon notre propre chair. Et aussi sur une base régulière. Peut-être si vous priez une fois par mois, bon, si je dis pas que ça marchera moins, mais c'est important je pense pour développer notre compassion, notre persévérance aussi, de prier sur une base vraiment régulière. Et jeûner si vous sentez aussi capable. Parce qu'en fait, c'est quand on se sent incapable, finalement, que Dieu peut agir. On se laisse vraiment, au Seigneur, là j'en peux plus et je veux vraiment combattre dans la prière, combattre dans le jeûne aussi. Donc, première clé, c'était prier et jeûner de manière régulière. Deuxième clé, c'est s'intéresser à la personne. Faut pas oublier qu'au-delà d'être votre père, votre mère, votre conjoint, votre frère ou sœur, votre famille proche est avant tout une personne qui a des goûts, qui a un caractère, vous connaissez ses défauts, ses qualités, qui a des centres d'intérêt, des hobbies, des passions, des habitudes, etc. Peut-être, déjà, première question, c'est est-ce que vous connaissez déjà les goûts, les centres d'intérêt de votre famille proche ? Première question un peu que vous pouvez réfléchir. Et sinon, passez du temps avec eux justement pour développer votre connaissance de ces personnes. Parce que avant tout, peut-être maladroitement, on se dit, je vois l'autre comme une cible. Au début de la vie chrétienne, on dit souvent, ouais, il faut évangéliser, machin et tout. Et en fait, non, l'autre personne... C'est pas une cible, c'est une personne à part entière avec tous ses défauts, ses qualités, ses relations avec nous qu'on a. Et avant tout, c'est connaître vraiment la personne pour qui elle est et non pas juste pour l'avoir comme une cible. Voilà. Bastien Coueno disait « Cherchez la qualité et la profondeur de la relation plutôt que la performance et la conversion. » Cherchez avant tout la qualité et la profondeur de la relation plutôt que la performance et la conversion. Deuxième clé, s'intéresser à la personne. Et troisième clé, ne pas seulement parler de Jésus, mais être comme Jésus et les premiers disciples. On ne va pas passer tous les textes, mais par exemple dans Jean 1, verset 39 à 42, je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'évangile de Jean, Jésus appelle les premiers disciples. Donc il appelle d'abord, il y a notamment André, qui est le frère de Pierre, et qui dit à Pierre, viens, je crois qu'on a trouvé le Messie. Donc, premier réflexe, il a rencontré Jésus et il va chercher son frère. Vous voyez ? C'est une manière de faire qu'il y avait dans la parole. Je rencontre Jésus et j'ai envie d'amener un membre de ma famille proche de manière spontanée. Finalement, on va bien voir est-ce que c'est le Messie. Quoi. Voilà. On a Acte 10, verset 24. où on a Pierre, vous savez, qui reçoit cette vision avec cette nappe, avec des aliments, des animaux qui sont impurs. Et Dieu lui dit, je mange, c'est pur, mange, c'est pur. Et en fait, il se fait appeler ensuite par un intermédiaire pour aller chez Corneille. Et Corneille, en fait, c'était un non-juif. Et la vision que Pierre avait eue, c'était bah, l'évangile est aussi pour les non-juifs. Et sauf que Corneille, il n'a pas juste dit bah, vas-y, viens me parler à moi. Il savait que c'était un homme de Dieu. Et du coup, il a invité toute sa famille, tous ses proches, en fait, pour entendre parler de l'évangile, de ce que Dieu voulait dire à travers Pierre. Donc, il avait invité ses amis intimes et sa famille. Voilà. Donc, encore un autre exemple dans la Bible. Si on lit Actes 16, versets 14-15, on a Paul et Silas. Paul reçoit en fait dans Acte 15, à la fin de Acte 15, Paul reçoit une vision où il voit un Macédonien dans son rêve qui crie à l'aide. Et donc il va en Macédoine, la première ville dans Macédoine dans laquelle il arrive, c'est Philippe. Et on peut se dire, bah, il a reçu une vision, tac, il va faire plein de disciples. Et en fait, il se trouve qu'il en fait deux particulièrement. Le premier, c'est Lydie, la famille de Lydie, la marchande de pourpre. Et en fait, il annonce l'évangile à Lydie et à sa famille. Et en fait, toute sa famille se fait baptiser. En fait. Donc, c'est vraiment une conversion en masse, quoi. Et à travers une seule personne à qui ils ont parlé, à la base. Et juste après, je ne sais pas si vous savez à Philippe, qu'est-ce qui se passe dans Acte 16. Qu'est-ce qui se passe à Philippe juste après ça? Il délivre une servante qui avait un esprit de python, de serpent. Du coup, bah, sauf qu'elle avait un certain don à travers ça, et du coup, bah, les maîtres de cette servante les font mettre en prison. Qu'est-ce qui se passe en prison?
Ils se convertissent.
Ah non, Paul et Silas se sont mis en prison, donc qu'est-ce qui se passe du coup en prison?
Ils
prient et ils chantent, ouais. Ils prient et chantent. Il y a tout s'effondre, enfin pas tout s'effondre, mais voilà, tout s'ouvre, quoi. Et on a le geôlier, celui qui est le gardien de la prison, qui est mort de peur. Et on a Acte 16, 31 qui est ce verset, mais crois à l'éternel Dieu et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et puis après, ils vont vers la famille de ce geôlier et ils prêchent l'évangile à la famille aussi. Donc, au geôlier à la famille. Et en fait, bah, pareil en évangélisation, parfois vous dites, bah ouais, je sens qu'il va y avoir plein de fruits et tout. Mais finalement, tu touches une personne, tu touches Lydie, tu touches le geôlier, et à travers ces deux personnes de paix, il y a toute la conversion de toute la famille derrière. Et ça, c'était ce que Dieu voulait, ce que Jésus voulait pour Paul et Silas, en fait, pour la vision que Paul lui a donnée. Parce que des fois, on se dit, bah, une vision, j'ai prêché 3000 personnes, comme dans Acte 2, voilà, quoi, converti. Mais en fait, non, c'était à travers une personne, une personne particulière, et à travers des épreuves, parce que quand même, la prison, quand tu es emprisonné en avis, bah, tu sais pas combien de temps tu vas rester, quoi. C'était. Voilà. Ensuite, Ensuite, on va lire ensemble, par contre, c'est important. 1 Pierre 3, si vous pouvez ouvrir votre Bible. Chapitre 3, donc c'est après Jacques, juste après Jacques. Alors vous savez, 1 Pierre 3, c'est on s'adresse aux femmes, après on s'adresse aux maris. Donc. Et ensuite, on a ces versets 8. Je vais juste lire 8 et 9. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. Et en fait, c'est intéressant, c'est que il y a cette partie qu'on connaît bien, 1 Pierre 3, versets 1 à 7, où on dit « Femme, soumettez-vous à votre mari, la beauté incorruptible intérieure par rapport à la beauté extérieure. » On voit les maris, on dit qu'il faut avoir de l'estime par rapport à elles, avoir de la compréhension vis-à-vis des femmes. Et après, paf, on passe à verset 8, « Ayez tous les mêmes pensées, les mêmes sentiments, soyez plein d'amour fraternel, etc. » Et en tout cas, je pense qu'il y a vraiment un lien entre ce que dit Paul ici et la famille, en fait. Parce que justement, il parle de la famille, il parle de ce qui se passe dans le couple. Et finalement, ensuite, il parle de ces encouragements un peu plus généraux, mais qui, je pense, sont les premiers à... Enfin, dans lesquels la famille, c'est le premier cadre dans lequel on peut vivre ces encouragements. Les mêmes pensées, les mêmes sentiments, soyez plein d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Et je pense qu'au fond de lui-même, Pierre savait que l'endroit le plus difficile pour témoigner de sa foi était la famille. Et c'est pour ça que finalement, juste après, ils encouragent, mais soyez quand même plein d'amour, soyez quand même plein de compassion pour votre prochain, au sein de votre famille notamment. On a aussi le fruit de l'esprit, Galates 5, verset 22, où normalement, une fois qu'on est chrétien, bah, on a le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Il y a 9 caractéristiques, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Ouais, ça. Donc il y en a 9. Et du coup, en fait, on est censé vivre ce fruit de l'esprit, mais avec notre famille avant tout. Donc c'est amour, joie, ok, bah, c'est pas facile si on a peut-être notre conjoint qui est peut-être en pleine dépression en ce moment. C'est-à-dire la patience. Ah ouais, la patience, je le connais bien. Il y a toutes ces choses-là où finalement, dans la famille, on peut se laisser guider par Dieu pour vivre particulièrement un aspect du fruit de l'esprit, peut-être dans lequel vous péchez en ce moment, dans lequel c'est difficile. Donc peut-être essayer de réfléchir à un fruit de l'esprit, à une partie du fruit de l'esprit qui peut-être vous interpelle plus. Peut-être pour certains, ce sera la douceur, pour d'autres, la maîtrise de soi, pour d'autres, la patience, pour d'autres, la bonté, la bienveillance. On a aussi dans 1 Pierre 3, si on reste sur 1 Pierre 3, le cas des femmes. Donc on va lire versets 1 à 4. 1 Pierre 3, versets 1 à 4. Francis, tu peux lire, s'il te plaît.
Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois sans parole, par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. Recherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure, cheveux, habillement tressé, bijoux en or, toilette élégante, mais celle qui émane de l'être intérieur. La beauté impérissable d'un esprit doux et paisible à laquelle Dieu attache un grand prix.
Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, on voit que dans ce passage particulier, Pierre exhorte les femmes qui sont avec des maris non-croyants, qu'elles peuvent gagner leur mari par leur conduite, en fait, par leur beauté intérieure et non pas par les aspects extérieurs, mais vraiment intérieurs. Et c'est vrai que ce matin, j'étais en train de me dire, mais comment ça se fait qu'il n'écrit pas la même chose pour les maris? Tu sais, genre, il aurait pu écrire la même chose pour les maris et par les femmes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans Actes, la plupart du temps, où Paul va d'endroit en endroit et qu'il y a des conversions, souvent il y a des femmes, en fait. Comme quoi les femmes étaient plus prédisposées à croire, mais qui étaient peut-être déjà mariées et que du coup, restent dans leur mariage. Mais du coup, c'est elles les premières à se convertir dans la famille. Je pense qu'il y a un lien, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, peut-être c'est pour ça que quand Pierre écrit cette lettre, il insiste plutôt sur ça. Mais il y a le cas aussi inverse qui est possible. On va voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 7 pour vous encourager aussi. 1 Corinthiens chapitre 7. Jessica, si tu peux lire les versets 12 à 16.
Pour les autres couples, en l'absence d'indication de la part du Seigneur, voici ce que je dis. Si un frère chrétien est marié avec une femme non-croyante et qu'elle consente à rester avec lui, qu'il ne la quitte pas. De même, si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à rester avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car du fait de son union avec sa femme, le mari non-croyant est bien un mari légitime aux yeux de Dieu. Et de même, du fait de son union avec son mari chrétien, la femme non-croyante est bien une épouse légitime aux yeux de Dieu. Autrement, leurs enfants seraient des enfants naturels, alors qu'en réalité, ils sont légitimes. Mais si le conjoint non-croyant est déterminé à demander le divorce, eh bien qu'il le fasse. Dans ce cas, le frère ou la sœur n'est pas lié. Dieu vous a appelé à vivre dans la paix. Car toi, femme, tu amèneras peut-être ton mari au salut, mais en fait, qu'en sais-tu? De même, toi, mari, tu amèneras peut-être ta femme au salut, mais en fait, qu'en sais-tu?
Voilà. Donc là, on n'a pas une conversion immédiate, mais on a un commandement alors qu'il vient de Paul dans 1 Corinthiens, où il dit, c'est pas Dieu qui le dit, mais c'est moi qui le dis, mais bon, quand même, Paul a une certaine autorité spirituelle. Et voilà, c'est pas que le cas de la femme qui peut amener à la conversion son mari, mais ça peut être aussi le cas inverse. Et je sais pas si vous voyez le verset 15 à la fin. Dieu nous a appelés à vivre en paix. La paix, c'est le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, on va dire tout ça. Pour synthétiser, c'est le savoir-être. Enfin, on parle souvent de ça, moi dans mon travail on parle de savoir-faire, savoir-être. Le savoir-être, il y a 5 êtres que propose Bastien dans son article. Le premier, c'est être à l'écoute de la personne. Être à l'écoute de ses problèmes, de ses doutes, de ses angoisses. Et être à l'écoute va montrer, va faire en sorte que la personne va se sentir en confiance vis-à-vis de nous, en fait. Qu'elle va être prête à avoir une relation plutôt de confiance. Et nous, on peut lui apporter concrètement l'amour dont elle a besoin. L'écoute, en fait. Deuxième chose, c'est être attentionné et intentionnel. Attentionné et intentionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre visite régulièrement si c'est un parent ou... Voilà. Mettre du temps à part pour cette personne. Si mon conjoint n'est pas chrétien, mais que je l'ai vraiment à cœur, je ne peux pas dire, tous les soirs de la semaine, je vais à l'église, je vais faire des activités, et voilà, c'est dommage, il faut que tu te convertisses. Enfin, y a vraiment ce... mettre du temps à part pour cette personne, pour que cette personne comprenne bien que le temps de qualité que je passe avec elle, c'est important à mes yeux. Donc, c'est-à-dire qualité. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous passez 5 soirs en semaine dans la même maison, vous mangez ensemble et qu'après, voilà, il ne se passe rien et qu'il est sur son portable ou que voilà. Et c'est vraiment, même si vous passez 1h30, vous couchez les enfants ou quoi, et vous êtes avec elle, vous êtes vraiment avoir une vraie discussion profonde, c'est déjà un temps de qualité. C'est pareil avec Dieu. Hein. Je regarde le portable, je prie, c'est pas vraiment un temps de qualité avec Dieu. Quoi. Je pas juste 5 minutes, mais 5 minutes vraiment exceptionnelles, consacrées à Dieu, c'est le plus important. C'est être serviable. Ça veut dire découvrir peut-être les besoins de l'autre en discutant avec cette personne et lui proposer notre aide. Faire des courses pour elle, l'amener à l'aéroport, des petits trucs comme ça, mais ça peut la toucher. Quatrièmement, c'est être attentif. Être attentif, si vous savez que la personne aime se balader, rire, cuisiner, c'est-à-dire que vous avez peut-être proposé des temps où vous pourrez faire ces choses-là avec elle. Et cinquièmement, dernier, c'est être présent. Je pense que Sergine, c'est pas Sergine, pardon. Régine.
Oui.
Désolé. Régine, ça rejoint ce que tu disais, c'est être présent dans les bons et dans les mauvais moments. Fêter, célébrer, mais également compatir avec nos proches dans les moments moins marrants, on va dire. Et ça peut être physiquement ou à distance. On a montré qu'on tient à la personne. On va être à l'écoute, être attentionné, être serviable, être attentif, être présent. Pour bientôt terminer, je vous propose d'avoir un moment où vous prenez votre stylo et vous notez peut-être 2-3 noms sur un papier que vous avez vraiment à cœur de prier pour cette personne-là. Là, vous dites, peut-être c'est déjà dans votre tête, ou peut-être il faut un petit temps pour réfléchir. On va se laisser une minute pour écrire ces noms. Et après, se mettre par groupe de deux. Alors, ce qui serait top, c'est si vous êtes avec votre conjoint ou avec quelqu'un de votre famille, de prier ensemble pour peut-être la même personne en commun à laquelle vous pensez. Voilà. Donc, d'abord, prenez un temps seul avec vous-même, avec Dieu. Vraiment, vous demandez au Seigneur, quelles sont les 2-3 personnes que tu me mets à cœur, ou même une personne. Franchement, moi, je préfère largement que vous mettiez une personne et vous êtes à fond intentionnel, attentif, etc. Mais que vous êtes à fond sur elle. Je veux dire, je mets 3 noms parce que j'ai mis 3, j'avais mis 4, j'avais mis 5, et qu'en fait, ça reste un papier dans votre poche et vous ne savez plus trop ce que vous avez fait dimanche le 27 octobre. Voilà. Donc, je vous laisse une minute et puis après, on va se mettre par groupe de 2. Ok, c'est bon, chacun a pu mettre un nom dans son cœur. Un petit rappel aussi, j'ai uniquement parlé de relations, de qu'est-ce qu'on pouvait faire, mais bien sûr il y a aussi l'annonce de l'évangile, mais l'annonce de l'évangile, c'est un peu ce qu'on a vu déjà le mois dernier. Il n'y a pas de façon de faire, mais là c'était vraiment plus insister sur le être, sur la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, plutôt que sur le message en lui-même. Le message en lui-même, vous le connaissez tous, vous êtes tous chrétiens, donc vous savez que c'est apporter la bonne nouvelle. Ça, c'était pas vraiment le. J'en ai pas parlé, mais c'est évident qu'il y a aussi, s'il y a des occasions, qu'on puisse parler un peu de Dieu, etc. Ça veut pas dire balancer direct Jésus sauve, mais insister peut-être sur le côté réconfort que Jésus peut apporter dans notre vie. Ouais. Je vous propose de mettre par 2, de prier ensemble, l'un pour l'autre, et puis on va conclure comme ça.